Voltaire, Dictionnaire philosophique, article philosophe. Philosophe, amateur de la sagesse, c'est-à-dire de la vérité. Tous les philosophes ont eu ce double caractère. Il n'en est aucun dans l'Antiquité qui n'ait donné des exemples de vertu aux hommes et des leçons de vérité morale. Ils ont pu se tromper tous sur la physique, mais elle est si peu nécessaire à la conduite de la vie que les philosophes n'avaient pas besoin d'elle. Il a fallu des siècles pour connaître une partie des lois de la nature. Un jour suffit à un sage pour connaître les devoirs de l'homme. Le philosophe n'est point un enthousiaste. Il ne s'érige pas en prophète. Il ne se dit point inspiré des dieux. Aussi je mettrai au rang des philosophes ni l'ancien Zoroastre, ni Hermès, ni l'ancien Orphée, ni aucun de ces législateurs dont se vantaient les nations de la Chaldée, de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte et de la Grèce. Ceux qui se dirent enfants des dieux, étaient les pères de l'imposture. Et s'ils se servirent du mensonge pour enseigner des vérités, ils étaient indignes de les enseigner. Ils n'étaient pas philosophes, ils étaient tout au plus de très prudents menteurs. Par quelle fatalité honteuse, peut-être pour les peuples occidentaux, faut-il aller au bout de l'Orient pour trouver un sage simple, sans face, sans imposture, qui enseignait aux hommes à vivre heureux, 600 ans avant notre ère vulgaire, dans un temps où tout le septentrion ignorait l'usage des lettres, et où les Grecs commençaient à peine à se distinguer par la sagesse? Ce sage est Confucius, qui, étant législateur, ne voulut jamais tromper les hommes. Quelle plus belle règle de conduite a-t-on jamais donnée depuis lui dans la terre entière? Réglez un État comme vous réglez une famille. On ne peut rien gouverner sa famille qu'en lui donnant l'exemple. La vertu doit être commune aux laboureurs et aux monarques. Occupe-toi du soin de prévenir les crimes pour diminuer le soin de les punir. Sous les bons rois Yao et Yuxu, les Chinois furent bons, et sous les mauvais rois Qiu et Shu, ils furent méchants. Fais à autrui comme à toi-même. Aime les hommes en général, mais chéris les gens de bien. Oublie les injures et jamais les bienfaits. J'ai vu des hommes incapables de science, j'en ai jamais vu incapables de vertu. Avouons qu'il n'est point de législateur qui ait annoncé des vérités plus utiles au genre humain. Une foule de philosophes grecs enseigna depuis une morale aussi pure. Si c'était bordé à leur vrai système de physique, on ne prononcerait jamais aujourd'hui leur nom que pour se moquer d'eux. Mais si on les respecte encore, c'est qu'ils furent justes et qu'ils apprirent aux hommes à l'être. On ne peut lire certains endroits de Platon et surtout l'admirable exorde des lois de Zéleucus sans éprouver dans son cœur l'amour des actions honnêtes et généreuses. Les Romains ont leur Cicéron, qui seul vaut peut-être tous les philosophes de la Grèce. Après lui viennent des hommes encore plus respectables, mais qu'on désespère presque d'imiter. C'est Épictète dans l'esclavage, ce sont les Antoniens et les Juliens sur le trône. Quel est le citoyen parmi nous qui se priverait comme Julien, Antonin et Marc Aurèle de toutes les délicatesses de notre vie molle et efféminée? Qui dormirait comme eux sur la dure, qui voudrait s'imposer leur frugalité, qui marcherait comme eux à pied et à tête nue, à tête désarmée, exposés tantôt à l'ardeur du soleil, tantôt au frimas, qui commanderait comme à eux toutes ces passions? Il y a parmi nous des dévots, mais où sont les sages? Où sont les hommes inébranlables, justes et tolérantes? Il y a eu des philosophes de cabinet en France, et nous tous, excepté Montaigne, ont été persécutés. C'est, ce me semble, le dernier degré de la malignité de notre nature, de vouloir opprimer ces mêmes philosophes qui la veulent corriger. Je conçois bien que des fanatiques d'une secte égorge les enthousiastes d'une autre secte, que les franciscains haïssent les dominicains, et qu'un mauvais artiste cabale pour perdre celui qui se le surpasse. Mais que le sage Caron ait été menacé de perdre la vie, que le savant et généreux Rabus ait été assassiné, que Descartes ait été obligé de fuir en Hollande pour se soustraire à la rage des ignorants, que Gassendi ait été forcé plusieurs fois de se retirer à Digne, loin des calomnies de Paris, c'est là l'opprobre éternel d'une nation. Un des philosophes les plus persécutés fut l'immortel Bel, l'honneur de la nature humaine. On me dira que le nom de Jurieu, son calomniateur et son persécuteur, est devenu exécrable, je l'avoue. Mais celui du jésuite, le Tellier, l'est devenu aussi. Mais de grands hommes qui l'opprimèrent n'ont-ils moins fini leurs jours dans l'exil et dans la disette? Un des prétextes dont on se servit pour accabler Bel et pour le réduire à la pauvreté fut son article sur David dans son utile dictionnaire. On lui reprochait de n'avoir point donné de louanges à des actions qui en elles-mêmes sont injustes, sanguinaires, atroces, ou contraires à la bonne foi, ou qui font rougir la pudeur. Bel, à la vérité, ne loua point David pour avoir ramassé sur les livres hébreux 600 vagabonds perdus de dettes et de crimes, pour avoir pillé ses compatriotes à la tête de ses bandits, pour être venu dans le dessein d'égorger Nabal et toute sa famille, parce qu'il n'avait pas voulu payer les contributions, pour avoir été vendre ses services au roi Achis, ennemi de sa nation, pour avoir trahi ce roi Achis, son bienfaiteur, pour avoir saccagé les villages alliés de ce roi Achis, pour avoir massacré dans ces villages jusqu'aux enfants à la mamelle, de peur qu'il ne se trouve un jour une personne qui puisse faire connaître ses dépravations, comme si un enfant à la mamelle aurait pu révéler son crime, pour avoir fait périr tous les habitants de quelques autres villages sous des scies, sous des herses de fer, sous des cogniers de fer, et dans des fours à briques, pour avoir ravi le trône à Yosbodef, fils de Saül, par une perfidie, pour avoir dépouillé et fait périr Méphitovoset, petit-fils de Saül et fils de son ami, de son protecteur Jonatas, pour avoir livré aux Canaanites deux autres enfants de Saül et cinq de ses petits-enfants qui moururent à la potence. Je ne parle pas de la prodigieuse incontinence de David, de ses concubines, de son adultère avec Bethsabée et du meurtre d'Uri. Quoi donc ? Les ennemis de Bel auraient-ils voulu que Bel lui fait l'éloge de toutes ses cruautés, de tous ses crimes ? Faudrait-il qu'il lui dit « Prince de la terre, imitez l'homme selon le cœur de Dieu, massacrez sans pitié les alliés de votre bienfaiteur, égorgez ou faites égorger toute la famille de votre roi, couchez avec toutes les femmes quand vous faites répandre le sang des hommes, et vous serez un modèle de vertu quand on dira que vous avez fait les psaumes. » Bel n'avait-il pas grande raison de dire que si David fut selon le cœur de Dieu, ce fut par sa pénitence et non par ses forfaits? Bel ne rendait-il pas service au genre humain en disant que Dieu, qui a sans doute dicté toute l'histoire juive, n'a pas canonisé tous les crimes rapportés dans cette histoire? Cependant, Bel fut persécuté. Et par qui? Par des hommes persécutés ailleurs, par des fugitifs qu'on aurait livrés aux flammes dans leur patrie. Et ces fugitifs étaient combattus par d'autres fugitifs appelés jansénistes, chassés de leur pays par les jésuites, qui ont enfin été chassés à leur tour. Ainsi, tous les persécuteurs se sont déclarés une guerre mortelle, tandis que le philosophe, opprimé par eux tous, s'est contenté de les plaindre. On ne sait pas assez que Fontenelle, en 1713, fut sur le point de perdre ses pensions, sa place et sa liberté, pour avoir rédigé en France, 20 ans auparavant, le traité des oracles du savant Vandale, dont il avait retranché avec précaution tout ce qui pouvait alarmer le fanatisme. Un jésuite avait écrit contre Fontenelle. Il n'avait pas daigné répondre. et c'en fut assez pour que le jésuite, le Tellier, confesseur de Louis XIV, accusa auprès du roi Fontenelle d'athéisme. Sans M. d'Argenson, il arrivait que le digne fils d'un faussaire, procureur de Vire et reconnu faussaire lui-même, prescrivait la vieillesse du neveu de Corneille. Il est si aisé de séduire son pénitent que nous devons bénir Dieu que ce Letellier n'ait pas fait plus de mal. Il y a deux gîtes dans le monde où l'on ne peut tenir contre la séduction et la calomnie. Ce sont le lit et le confessionnal. Nous avons toujours vu des philosophes persécutés par des fanatiques. Mais est-il possible que les gens de lettres s'en mêlent aussi, et qu'eux-mêmes les aiguisent souvent contre leurs frères les armes dont on les perce tous l'un après l'autre? Malheureux gens de lettres, est-ce à vous d'être délateurs? Voyez si jamais chez les Romains il y eut des gargasses, des chômeurs, des maillets, des accusasses, les Lucrèce, les Posidonius, les Varros et les Pilines. Être hypocrite, quelle bassesse! Mais être hypocrite et méchant, quelle horreur! Il n'y eut jamais d'hypocrite dans l'ancienne Rome, qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il y avait des fourbes, je l'avoue, mais non des hypocrites de religion, qui sont l'espèce la plus lâche et la plus cruelle de toutes. Pourquoi n'en voit-on point en Angleterre? Et d'où vient-il encore en France? Philosophe, il vous sera aisé de résoudre ce problème. Ses pensions, sa place et sa liberté, pour avoir rédigé en France, 20 ans auparavant, le traité des oracles du savant Vandale, dont il avait retranché avec précaution tout ce qui pouvait alarmer les fanatiques. Un jésuite avait écrit Fontenelle contre Fontenelle, et il n'est pas daigné répondre. Et ce fut assez pour que le jésuite Letellier, confesseur de Louis XIV, accusa auprès du roi Fontenelle d'athéisme. Sans M. d'Argenson, il arrivait que le digne fils d'un faussaire, procureur de Vire, reconnu faussaire lui-même, proscrivait la vieillesse du neveu de Corneille. Il est aisé de séduire son pénitent que nous devons bénir Dieu, que ce Letellier n'a pas fait plus de mal. Il y a deux gîtes dans le monde dont on ne peut tenir compte, dont on tient compte la séduction et la calomnie. Ce sont le lit et le confessionnal. Nous avons toujours vu les philosophes persécutés par des fanatiques. Mais est-il possible que les gens de lettres s'en mêlent aussi, et qu'eux-mêmes, ils aiguisent souvent contre leurs frères les armes dont on les perce l'un et son autre après l'autre? Malheureux gens de lettres, est-ce à vous d'être délateur? Voyez si jamais chez les Romains il y a eu des Carras, des Chomex, des Hier qui accusassent les Lucrèce, les Posidonius, les Varons et les Plines. Être hypocrite, quelle bassesse! Mais être hypocrite et méchant, quelle horreur! Il n'y eut jamais d'hypocrite dans l'ancienne Rome qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il y avait des fourbes, je l'avoue, mais non des hypocrites de religion, qui sont l'espèce la plus lâche et la plus cruelle de tout. Et pourquoi n'en voit-on point en Angleterre? Et d'où vient qu'y a-t-il encore en France? Philosophe, vous serez aisé de résoudre ce problème. Ce beau nom de philosophe a été tantôt honoré, tantôt flétri, comme celui de poète, de mathématicien, de moine, de prêtre et de tout ce qui dépend de l'opinion. Domitien chassa les philosophes. Lucien se moqua d'eux. Mais quel philosophe, quel mathématicien furent exilés par ce monstre de Domitien? Ce furent des joueurs de gobelets, des tireurs d'horoscope, des diseurs de bonne aventure, des misérables juifs qui composaient des filtres amoureux et des talismans, des gens de cette espèce qui avaient un pouvoir spécial sur les esprits malins, qui les évoquaient, qui les faisaient entrer dans le corps, tous avec des paroles ou avec des signes, et qui les en délogeaient par d'autres signes et d'autres paroles. Et quels étaient les philosophes que Lucien livrait à la risée publique? C'était la lie du genre humain, ces dégueux incapables d'une profession, des gens ressemblant parfaitement au pauvre diable dont on a fait une description aussi vraie que comique, qui savent qu'ils porteront la livrée ou qu'ils seront l'almanach de l'armée merveilleuse, s'ils travailleront à un journal ou au grand chemin, s'ils se feront soldats ou prêtres, et en attendant, vont dans les cafés dire leur avis sur la pièce nouvelle, sur Dieu, sur l'être en général, et sur les modes de vie de l'être. Puis vous empruntent de l'argent et vont faire un libelle contre vous avec l'avocat Marchand ou le nommé Chandon ou le nommé Bonneval. Ce n'est pas d'une pareille école que sortirent les Cicéron, les Atticus, les Épictète, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Julien. Ce n'est pas là que s'est formé ce roi de Prusse qui a composé autant de livres philosophiques qu'il a gagné de batailles et qui a terrassé tant de préjugés que d'ennemis. Une impératrice victorieuse qui fait trembler les Ottomans et qui gouverne avec tant de gloire un empire plus vaste que l'empire romain n'a été une grande législatrice que parce qu'elle a été philosophe. Tous les princes du Nord le sont, et le Nord fait honte au Midi. Si les confédérés de Pologne avaient un peu de philosophie, ils ne mettraient pas leur batterie, leur terre, leur maison au pillage. Ils n'en sangloteraient pas leur pays. Ils ne se rendraient pas les plus malheureux des hommes. Ils écouteraient la voix de leur roi philosophe, qui leur a donné de si vains exemples et de si vaines leçons de modération et de prudence. Le grand Julien était philosophe quand il écrivait à ses ministres et à ses hommes et à ses pontifes ces belles lettres remplies de démence et de sagesse que tous les véritables gens de bien admire encore aujourd'hui et condamne ses erreurs. Constantin n'est pas philosophe. Il n'était pas philosophe quand il assassinait ses proches, son fils et sa femme, et que, dégoûtant du sang de sa famille, il jurait que Dieu lui avait envoyé l'abanum dans les nuées. C'est un terrible sot d'aller de Constantin à Charles IX et à Henri III, roi des 50 grandes provinces de l'Empire romain. Mais si ces rois avaient été philosophes, l'un n'aurait pas été coupable de la Saint-Barthélemy, et l'autre n'aurait pas fait des processions scandaleuses avec ses gitons. Ce ne serait pas réduit à la nécessité d'assassiner le duc de Guise et le cardinal son frère, et n'aurait pas été assassiné lui-même par un jeune jacobin. pour l'amour de Dieu et de la Sainte Église. Si Louis le Juste, 13e du nom, avait été philosophe, il n'aurait pas laissé traîner à l'échafaud le vertueux de Toux et l'innocent maréchal de Marillac. Il n'aurait pas laissé mourir de faim sa mère à Cologne. Son règne n'aurait pas été une suite continuelle de discordes et de calamités internes. Comparer tant de princes ignorants, superstitieux, cruels, gouvernés par leurs propres passions ou par celles de leurs ministres, un homme tel que Montaigne, ou Charron, ou le chancelier de l'hôpital, ou l'historien de Toux, ou Montaigne, ou la Motte le Veillé, un Locke, un Shaftesbury, un Sidney, un Herbert. Et voyez, si vous verriez mieux être gouverné par ces rois ou par ces sages. Quand je parle des philosophes, ce n'est pas des polissons qui veulent être les singes de Diogène, mais de ceux qui imitent Platon et Cicéron. Voluptueux courtisans, et vous petits hommes, revêtus d'un petit emploi, qui vous donne une petite autorité dans un petit pays. Vous criez contre la philosophie. Allez, vous êtes des Noventanus qui vous déchaînez contre Horace et des Cotins qui voulaient qu'on méprise Boileau. L'empesé luthérien, le sauvage calviniste, l'orgueilleux anglican, le fanatique janséniste, le jésuite qui croit toujours régenter, même dans l'exil et sous la police potence, le sorboniste qui pense être père d'un concile, et quelque sorte que tous ces gens-là dirigent, se déchaînent tous contre le philosophe. Ce sont des chiens de différentes espèces qui hurlent tous à leur manière contre un beau cheval qui paît dans une verte prairie, et qui leur dispute aucune des charges dont ils se nourrissent et pour lesquelles ils se battent entre eux. Ils font tous les jours imprimer des fatras de théologie philosophique, de dictionnaires philosophico-théologiques, et leurs vieux arguments traînés dans les rues. Ils les appellent démonstrations, et leurs sottises rebattues, ils les nomment Lévide, corollaire, comme les faux monnayeurs appliquent une feuille d'argent sur un écu de plomb. Ils se sentent méprisés par tous les hommes qui pensent et se voient réduits à tromper quelques vieilles imbéciles. Cet état est plus humiliant que d'avoir été chassé de France, d'Espagne et de Naples. On dirige tout, hors le mépris. On dit que quand le diable fut vaincu par Raphaël, comme il est prouvé, cet esprit-corps si superbe se consola très aisément parce qu'il savait que ses armes sont journalières. Mais quand il sut que Raphaël se moquait de lui, il jura de ne lui pardonner jamais. Ainsi les jésuites ne pardonnèrent jamais à Pascal, ainsi Jurieux calomnia Belle jusqu'au tombeau, ainsi tous les Tartuffes se déchirèrent, et se déchaînèrent plutôt, contre Molière jusqu'à sa mort. Dans leur rage, ils prodiguent les impostures, comme dans leur ineptie, ils débitent leurs arguments.